Bonjour Jean-François Billetter.
Bonjour.
Nous vous avons quitté dans le deuxième épisode, désormais installé comme professeur à Genève, où vous allez enseigner durant près de 4 décennies. Vous viviez déjà dans l'appartement dans lequel vous nous accueillez pour cet enregistrement?
Non, pas tout de suite. Ah. Mais dans cet appartement-ci, j'habite depuis bientôt 50 ans.
Et depuis cet appartement au 7e étage, vous nous disiez en arrivant à Guillaume Baldi et moi que l'on voit des montagnes dont aucune n'est située en Suisse.
Oui, ce qui était un sujet d'étonnement pour nos visiteurs chinois. Pour qui? Parce que pour un Chinois, franchir une frontière, c'est un événement important qu'il ne fait pas souvent dans sa vie. Et quand j'expliquais à des visiteurs chinois qui débarquaient ici que toutes les montagnes qu'ils voient de tous les côtés sont à l'étranger parce qu'elles sont en France, ils étaient époustouflés.
Vous aimez cette ville, Genève?
Non.
Ah.
Enfin, pas spécialement.
Pourquoi y êtes-vous resté?
Mais parce que j'y suis venu faire mes études et que j'y ai trouvé du travail.
Et ensuite, lorsque vous avez quitté l'université?
Ah ben, il n'est plus question de bouger à ce moment-là.
Ah bon?
Non, j'ai plus envie de déménager, surtout avec cet appartement que j'ai ici et puis la bibliothèque que vous voyez qui est difficile à déménager. Et bon.
Imposante bibliothèque.
Oui.
Je vous sais très attaché au lieu et notamment au café, du moins à certains d'entre eux. Des cafés où vous aimez travailler.
Alors que j'ai besoin, parce que, comme vous voyez, j'ai trop de choses ici. Il y a trop de livres, il y a trop de papiers, il y a le téléphone, il y a 1000 choses. Et donc, pour me concentrer, j'ai besoin d'aller ailleurs. Et donc, je vais au café. C'est là que je peux me concentrer.
Vous parlez d'un plaisir aristocratique, au tout début d'un paradigme, je crois.
Oui. Oui, c'est vrai que quand je m'installe au café, j'ai le plaisir aristocratique d'être entièrement maître de la situation. C'est-à-dire que je dispose devant moi mon stylo, le papier que j'ai amené, un livre dont j'ai éventuellement besoin, et rien d'autre. Et donc je me sens libre, alors qu'ici je me sens entouré de trop de choses.
Vous écrivez aussi, j'ai aussi le sentiment, en étant au café, de me situer dans l'histoire, car les cafés ont été des lieux de liberté où des idées sont nées, où elles ont commencé leur carrière. Je m'imagine, écrivez-vous, dans un paradigme au tout début, continuant cette tradition qui va du café de la Régence, où se déroule le neveu de Rameau, au Flore, où Sartre a écrit L'être et le néant, si je ne me trompe.
Oui, mais je crois que c'est les deux magots. Enfin, je ne sais pas.
Et donc,
mais c'est vrai qu'il y a... C'est vrai que je ressens une liberté chaque fois que... C'est tous les jours, noté. Hein. Alors, est-ce que c'est une espèce de romantisme qui n'existe que dans ma tête? Je ne sais pas. Mais enfin, ce que je dis là, je le pense.
Et dans quel café, alors, dira-t-on, c'est là que Jean-François Billetter a conçu...
Alors ça, je...
Un paradigme?
Ça, je...
Ces esquisses?
Ça, je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas. Et d'ailleurs, ça ne sera pas, parce que j'ai différents cafés. Mais il faut dire aussi une chose toute simple, c'est que depuis la disparition de ma femme, je vis seul, et donc j'ai besoin de parler à quelqu'un, ne serait-ce qu'à la jeune personne qui m'apporte mon café, tout simplement. Et puis aussi, j'ai besoin de sortir et de bouger. Donc il y a tout ça.
Hélas, écrivez-vous aussi, le nombre de lieux propices à la pensée se réduit. Vous écrivez ça aussi dans, je ne sais plus, peut-être dans Bonnard et Giacometti. Vous écrivez, je le note en beaucoup d'endroits, j'appartiens à une espèce menacée par la destruction du milieu dont elle a besoin pour vivre.
Ah bah oui, parce que les vrais cafés disparaissent. Mais oui, absolument. Y compris à Paris.
Qu'est-ce que vous appelez un vrai café?
Mais c'est un café traditionnel, c'est-à-dire que c'est un café où il y a encore des meubles en bois, des vraies tables, où il n'y a pas trop de musique agressive, où on est un peu tranquille, où il y a d'autres gens qui sont tranquilles, tout ça. Ça, il y en a de moins en moins.
C'est un lieu, le café, où vous aimez pratiquer une notion qui vous est chère, l'arrêt.
Alors, l'arrêt au café ou ailleurs, ça n'est pas lié au café, ça.
Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que vous entendez par cette notion d'arrêt et quel rôle elle joue, qui a un rôle assez crucial dans votre pensée.
Alors, c'est absolument crucial et c'est une découverte que j'ai faite qui, à moi, me paraît importante. C'est que pour observer ce que nous sommes en tant que sujet, je m'exprime, pas en sujet particulier, individuel, mais en tant que sujet qui dit « je », eh bien, pour l'exploration de ce sujet pris en ce sens-là, il y a une voie d'accès qui est obligée, je dirais, qui est l'arrêt, c'est-à-dire la suspension momentanée de toute intention. C'est un phénomène naturel. Quand on dit qu'on tombe en arrêt, qu'est-ce qui se passe? Observez chez quelqu'un qui tombe en arrêt, qui est sidéré. D'abord, il s'arrête, hein? Parce qu'il ne comprend pas. Et donc, parce qu'il ne comprend pas, ben, il laisse les choses se faire. Il ne les dirige plus. Et ça, c'est l'arrêt. Or, l'arrêt, on le fait spontanément. Par exemple, vous vous arrêtez, vous entendez quelque chose, mais vous comprenez pas bien. Et vous vous arrêtez pour dresser l'oreille. Du moment que on s'intéresse à l'arrêt et que à ce phénomène, on donne un nom pour fixer les idées, ensuite, c'est une voie d'accès à d'innombrables choses. Ce que j'appelle la connaissance du sujet, à mon avis, exige la pratique de l'arrêt. Parce que l'arrêt, c'est quelque chose de spontané, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez cultiver. Quand vous êtes à l'arrêt, il y a suspension de la fonction du langage. D'ailleurs, je note que depuis que je publie les choses que vous avez lues, eh bien, les gens qui ont le plus de peine à comprendre ce que je dis, ce sont les philosophes. C'est les gens qui ont fait de la philosophie. Parce qu'ils sont tellement dans le langage qu'ils ne conçoivent pas qu'il y ait des choses qui ne deviennent accessibles que quand on met le langage hors fonction. Pour eux, c'est inconcevable. Donc, je me suis beaucoup intéressé à ce qui découle de cette découverte. Les découvertes que j'ai faites à partir de là, j'ai voulu les formuler. Et il a fallu donc que je choisisse des termes qui permettent de parler des choses que je découvrais. Alors, quand je suis à l'arrêt, que je ferme les yeux, mettons, et que je n'ai plus qu'une chose, c'est le pur sentiment de ma présence. Cette présence-là, comment la décrire, comment la nommer? Et il me semble qu'elle est faite d'activité. Or, il m'a semblé, pour être cohérent et rendre compte de ce que j'observais, que l'intuition première qui était préférable, c'était de dire que nous sommes faits d'activité.
Alors nous nous sommes un peu laissés embarquer dans votre pensée du sujet, de l'activité, mais oui. J'avais promis aux auditeurs du dernier épisode que nous allions parler de votre beau-père, le père de votre femme chinoise,
oui,
c'est qui vrai. A un parcours particulier.
Oh, un parcours.
Un parcours,
c'est... Une vie, toute une vie.
Et que vous allez découvrir, et vous le racontez dans une rencontre à Pékin,
oui.
Sur le tard, lorsqu'un des frères de votre femme va, non pas l'aîné, mais après la mort de l'aîné, se décidera à vous raconter son histoire.
Parce qu'il y a d'immenses lacunes dans ma vie, et l'une des lacunes terribles est un regret inguérissable. Je n'ai pas connu mes beaux-parents. Moi, je les ai aperçus deux fois. Je n'ai pas eu de conversation avec. J'ai pas eu de conversation ni avec l'un ni avec l'autre. Et ensuite, ils ont disparu. Il était trop tard. Et mon beau-père, notamment, quand je l'ai revu en 1900, lors de notre unique retour en 1975, il était très diminué parce qu'il avait eu une attaque cérébrale. Il avait de la peine à parler. Et de toute façon, les conditions ne s'y prêtaient pas. Et donc, j'ignorais au fond qui il avait été. Et la chose extraordinaire que vous avez peut-être de la peine à comprendre, c'est que ma femme non plus ne savait pas quel était le passé de son propre père. Parce que il avait un passé qui était politiquement problématique. Et les parents de Wayne, mon épouse, n'ont pas voulu qu'elle, petite fille, sache quoi que ce soit sur l'histoire de la famille. Parce que s'il en parlait à l'école, ça pouvait créer des ennuis.
Donc elle l'a découvert en même temps que vous.
Mais oui.
Donc elle a découvert à ce moment-là que son père avait été le garde du corps de Zhang Xueliang.
De Zhang Xueliang, qui est un personnage éminent dans l'histoire contemporaine chinoise.
Que vous décrivez comme le personnage le plus brillant et le plus tragique de l'histoire chinoise contemporaine.
Mais oui. Mais oui, parce que dans un épisode fameux, on est en 1934, je crois, à Xi'an, Chiang Kai-shek... Le président de la République chinoise refusait de s'engager dans une résistance contre le Japon qui avait déjà envahi la Mandchourie. Et les communistes, eux, voulaient lui forcer la main pour qu'il déclare la guerre au Japon et engage le peuple chinois qui le voulait dans une guerre de résistance contre l'envahisseur japonais. Et il a fallu forcer la main de Chiang Kai-shek. Et c'est ce Zhang Xueliang qui a arrêté Chiang Kai-shek et qui l'a obligé à changer de politique. Et Chiang Kai-shek a accepté, c'est une histoire archi célèbre, et Chiang Kai-shek a dit bon, d'accord, parce que Chiang Kai-shek sentait bien qu'il fallait en venir là. Et il a dit bon, d'accord, je change de politique, mais je fais de Chiang Xueliang mon prisonnier personnel. Parce que Chiang Kai-shek était quand même un dictateur.
Et parce que Chiang Kai-shek s'était retourné contre lui, si je ne m'abuse.
Il acceptait ce coup-là, mais il en a fait son prisonnier personnel, et il l'a gardé prisonnier personnel jusqu'à la fin, pour bien marquer que plus personne ne devait avoir ce genre d'audace ensuite.
Voilà. C'est-à-dire qu'il l'avait convaincu de s'allier avec les communistes pour lutter contre les Japonais,
voilà.
Puis Chiang Kai-shek s'est retourné contre Chiang Kai-shek, et Chiang Kai-shek lui a fait payer, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc, il en a fait son prisonnier personnel, mais je comprends pas. C'est-à-dire
il l'a gardé en cachot jusqu'à la fin de ses jours.
Jusqu'en 1975.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand Chiang Kai-shek est passé à Taïwan, il a emporté son prisonnier. C'est une histoire à Alexandre Dumas.
Pour revenir au père de Wen, lui, après la guerre et la victoire sur les Japonais, il va être victime, en fait, de la reprise de la guerre civile entre Chiang Kai-shek et les communistes, c'est ça ? Lui, il va subir ça.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où Mao Tse-tung, le Parti communiste et l'Armée populaire de libération, eh bien, ont gagné la guerre militairement contre Chiang Kai-shek, et ont pris le pouvoir, et donc à ce moment-là, eh bien, il y a d'innombrables Chinois qui avaient joué un rôle quelconque dans l'armée, dans la police, dans l'administration ou dans la vie civile, et qui ont dû se déterminer, soit partir avec Chiang Kai-shek à Taïwan, soit se rendre invisible, soit se rallier au nouveau pouvoir. Et les gens, à ce moment-là, ben, ils ont été plus ou moins malins, plus ou moins rapides et plus ou moins habiles. Et donc le père de Wen a subi ensuite l'oppression cruelle et systématique du nouveau régime parce qu'il n'avait pas su se caser à temps.
Oui, vous écrivez qu'il aurait pu faire jouer ses relations et qu'il
Il avait des collègues ou d'amis qui se sont mieux débrouillés. Mais ce qui est intéressant, je crois, pour vous maintenant, c'est que Wen a donc grandi dans l'ignorance complète de l'histoire de ses parents, et surtout de son père, qui était une histoire extraordinaire, et que nous l'avons découverte, cette histoire, beaucoup plus tard, par le témoignage d'un frère de Wen, qui lui savait, et nous a raconté tout. Et donc, ça a été une découverte à la fois pour Wen et pour moi, donc toute l'histoire de la famille, antérieure, sous l'ancien régime, avant le régime communiste. Et donc, ça a été une grande découverte, et pour Wen et pour moi, et d'ailleurs un grand moment d'émotion aussi pour le frère qui nous racontait la chose. Et j'ai eu l'idée, dans le petit livre qui s'appelle « Une rencontre à Pékin », de parler d'abord de ma rencontre avec Wen, qui est déjà une histoire assez rocambolesque, et puis ensuite de poursuivre et de remonter dans le passé, et de continuer en racontant l'histoire de la famille de Wen que Wen ignorait.
On renvoie nos auditeurs à cet ouvrage, mais j'avais une question à ce sujet,
oui.
Puisque le récit du frère date de 1998,
oui.
Et que vous dites que Chiang Kai-shek a vécu très longtemps, il est mort centenaire.
Oui.
C'est-à-dire qu'il était encore vivant quand vous avez reçu le récit.
Mais oui, c'est donc le prisonnier personnel de Chiang Kai-shek a fini sa vie, parce que Chiang Kai-shek a fini par mourir, tandis que Chiang Kai-shek a vécu très âgé, près de 100 ans, et il a fini sa vie à Hawaï. Ça, je ne sais pas exactement comment et pourquoi. Et je me suis rendu compte, à un moment donné, je crois que je me suis rendu compte, en écrivant ce petit livre, qu'au fond, Wen et moi, nous aurions encore pu aller lui rendre visite.
C'est ce que je voulais vous demander.
Et lui demander quel souvenir il avait gardé du père de Wen.
Et vous ne l'avez pas fait ?
Non. Je crois que je m'en suis rendu compte trop tard, et puis c'était trop difficile. Et puis aussi renseignements pris, si je me souviens bien, renseignements pris, je ne crois pas qu'il nous aurait reçu. Il était trop vieux, il était détaché de tout ça, ça ne l'aurait pas intéressé. Peut-être qu'il ne se serait même pas souvenu, j'en sais rien. Enfin, il était trop tard.
Revenons à Genève, si vous voulez bien.
Oui,
nous sommes et où vous avez enseigné les études chinoises. Je dois dire que vous avez beaucoup fait pour rendre la Chine familière à quelqu'un comme moi. Oui. C'est surtout grâce à vous et aux ouvrages que vous lui consacrez que je ne me représente pas cette Chine comme un ailleurs, une altérité radicale. Mmh. Ce qui ne va pas de soi en France.
Mais là, vous touchez un point qui m'importe. C'est que, comme j'ai enseigné pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai toujours pensé que ma tâche était de rendre la Chine accessible et que pour la rendre accessible, il fallait que je trouve des points de contact ou des points des médiations du monde d'ici au monde chinois pour ne pas opposer le monde chinois au nôtre comme quelque chose de complètement différent, mais que, comme quelque chose d'abordable. Mais encore faut-il trouver la manière de l'aborder. Et ça, je l'ai toujours fait. Ça a été l'essentiel de mon travail. Et alors, je vous donne un exemple. Dans « Pourquoi l'Europe, réflexion d'un sinologue », il m'a semblé intéressant de définir d'abord la Chine dans sa continuité et dans son caractère spécifique par une tradition politique et de mettre cette tradition politique en regard de la nôtre ou des nôtres. C'est une façon de comparer, mais de rendre accessible aussi par la comparaison.
Nous y reviendrons dans le dernier épisode, oui, sur cette analyse comparée des deux traditions politiques. Mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette histoire de Chine construite comme un ailleurs, parce que c'est quelque chose que vous avez développé notamment dans votre ouvrage qui s'appelle « Contre François Julien ».
Ah, oui.
Ce qui montre bien qu'il y a plusieurs traditions sinologiques qui s'affrontent, ou je ne sais pas comment formuler, des écoles peut-être sinologiques, ou en tout cas... Mais en là, tout cas, vous n'avez pas la même que François Julien.
Ah ben non, non, mais là, vous touchez le même point, au fond. C'est que François Julien a bâti toute son œuvre sur l'idée que la Chine est un ailleurs, est un autre monde, et que qu'il fallait la comprendre comme autre chose. Ça m'a paru faux. Ou disons que c'était une première façon, c'était une première impression, mais qu'il fallait dépasser cela, mais que pour le dépasser, eh ben, il faut trouver... ce qu'il y a de commun. Et donc, j'ai cette formule à la fin de ce petit livre contre François Julien. Si on pose la différence a priori, on ne trouve plus le commun. Si on parle du commun, on trouve la différence. Et ça résume tout à fait le problème de méthode sur lequel je m'oppose à François Julien.
Et j'imagine qu'il l'a mal pris.
Il l'a très mal pris. Mais il l'a mal pris, mais il n'a jamais voulu discuter sur le fond, c'est-à-dire sur le point que je viens de résumer.
Vous avez essayé. Vous lui avez proposé.
On s'était rencontrés de temps à autre. On aurait pu, mais il a si mal réagi. Il est monté sur ses grands chevaux. Il s'est répandu sur les ondes et à Paris.
Il a publié un ouvrage, non, de réponse.
Oui, il y a toute une histoire. Oui.
Donc vous n'êtes jamais expliqué.
Non, j'ai jamais revu. Et puis il y a de bonnes âmes qui trouvaient qu'on devait se rencontrer pour s'entendre. J'ai dit mais non, on s'entendra jamais. Il y a pas de réponse. Et puis il vaut beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant de ne pas s'entendre que de s'entendre, à quoi bon ?
Je ne sais pas si nous avons le temps de prendre un exemple, par exemple celui d'un terme chinois, tan, que vous reprochez, oui, à François,
oui,
Julien,
oui,
de traduire trop systématiquement, je crois.
Oui, parce qu'il a fait, parmi ses nombreux livres, il y a un livre qui s'appelle « Éloge de la fadeur ». Et il prétend résumer l'esthétique chinoise intemporel comme un éloge de la fadeur, c'est-à-dire de ce qui est léger, ce qui est transparent, de ce qui ne pèse pas, de ce qui... Et alors, moi, je lui reprochais de traduire, parce qu'il cite des textes, et dès qu'il y a le mot « tan » en chinois, il traduit par « fade » ou « fadeur ». Et alors, moi, je lui dis que c'est absurde, c'est toujours enfoncer le même clou, alors que quand on regarde le contexte, eh bien, « tan » aurait dû être traduit par léger, par fade, par insignifiant, par passager. Ça dépend. Il faut traduire le contexte et pas le mot seul. C'est une question de méthode. D'ailleurs, tout le petit livre contre François Julien, c'est une question de méthode. C'est pas une question de personne, moi contre lui. Tout cela, ce sont des questions de méthode. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'astre de François Julien a beaucoup baissé, ou a même disparu à l'horizon, mais ce livre continue à être lu. Parce que ce sont des questions de méthode.
Oui, vous dites dans Contre François Julien,
oui,
donc.
Oui.
Que vous avez pris le parti du fond commun contre celui de la différence.
Au fond commun, je
vous écrivez ça, en tout cas, Jean-François.
Ah,
Pieter.
le fond commun. Oui, le fond, c'est ça, oui, bien sûr.
Et que les Européens et les Chinois, je vous cite, ont peut-être vécu dans des mondes séparés dans le passé.
Oui.
mais les séparations anciennes sont caduques.
Alors,
que l'on cesse de part et d'autre de jouer les prolongations respectueuses et les réanimations artificielles.
Oui, bon. Mais ça, c'est une phrase qui ne me paraît pas très importante. Ce qui me paraît important, sur le plan de la méthode, c'est de ne pas faire... par exemple, dans les choix de traduction, quand on traduit du chinois, on peut traduire les termes de façon à suggérer qu'on a affaire à un monde entièrement différent et peut-être même à peine intelligible. Alors que quand on traduit les mêmes termes autrement, on découvre que cette Chine n'est pas si étrangère, n'est pas si éloignée de nous. C'est de ça qu'il s'agit.
Oui, c'est, vous dites que ce qu'on oublie, c'est que finalement, le chinois et les langues indo-européennes sont différentes, certes,
oui.
Mais que la différence n'est pas insurmontable, elle n'est pas abyssale.
Alors, il y a différentes questions. Il y a le problème auquel je me suis intéressé, qui est celui de la grammaire chez nous et de ce qui manque ou ce qui est l'équivalent chinois. Là, c'est une chose. Maintenant, il y a d'autre part, dans la traduction, les questions de sémantique. Et alors, un terme chinois, comment le traduit-on en français? Et par exemple, l'exemple, c'est le Tao, par exemple. Parce que le Tao, c'est... Il y a des gens qui croient que les Chinois ont une espèce de notion, le Tao, avec T majuscule, et que c'est l'équivalent de Dieu avec D majuscule.
La voix avec voilà, une majuscule.
Voilà, ça. Alors, moi, je montre, preuve à l'appui, que le mot Tao, ça dépend des époques. Mais Tao, doit être traduit différemment dans différents contextes parce que c'est un mot riche et qui englobe beaucoup de choses et qu'il faut le traduire en fonction du contexte pour faire comprendre le contexte, tout simplement. Et que donc, tenir mordicus à cette idée que Tao s'est traduit, ou plutôt se rend par Tao, T-A-O, en français, c'est la plupart du temps absurde. De nouveau, des questions de méthode.
Vous, une traduction que vous préférez pour Tao, c'est le fonctionnement des choses.
Mais non, c'est pas que je la préfère.
C'est que dans le Zhuangzi, oui, excusez-moi.
C'est même pas dans le Zhuangzi, c'est dans ce texte-là.
Alors allez-y, parce qu'on n'a pas encore parlé du Zhuangzi auquel vous consacrez oui. Quand même de nombreux ouvrages.
Oui, oui. Oui, mais c'est un exemple parfait. C'est que dans un fameux dialogue du Zhuangzi, un prince descend dans ses cuisines pour voir comment on travaille pour lui. Ce qui est d'ailleurs une scène surréaliste. Absolument surréaliste et révolutionnaire. Un prince ne descend pas dans ses cuisines et surtout n'interroge pas son cuisinier. Et un cuisinier ensuite qui lui répond avec assurance qu'il sait beaucoup mieux, lui le cuisinier, ce qu'il fait que le prince. Donc il faut mesurer à quel point c'est révolutionnaire. Et le cuisinier fait la démonstration de l'art avec lequel il dépèce un bœuf. Et puis le prince, le grand naïf, dit « Ah, c'est formidable, votre technique, j'aurais jamais imaginé ça. » Évidemment, il descend jamais dans les cuisines. Et le cuisinier pose son couteau et lui dit « Mais écoutez, ça n'est pas la technique qui m'intéresse, c'est le Tao dans le texte. » Alors, comment est-ce qu'on traduit ça? C'est pas le bon Dieu qui intervient là. Qu'est-ce qu'il veut dire, le cuisinier? Quand vous regardez le contexte, c'est parfaitement clair. Il veut dire, voilà, moi j'ai traduit ça par le fonctionnement des choses. Parce que ensuite, le cuisinier, sans avoir été prié de donner des explications, fournit des explications au prince. C'est surréaliste. Et le cuisinier explique comment, par quelles étapes il est parvenu à la maîtrise dont il vient de faire la démonstration. Et les étapes sont parfaitement décrites. Et donc, quand il dit au prince, ce qui m'intéresse, c'est pas la technique, c'est le Tao, il faut lire la suite. Et la suite, eh bien, c'est l'enchaînement des phases de l'apprentissage. Donc, j'ai traduit Tao, dans ce cas-là, par le fonctionnement des choses.
Et l'on retrouve peu à peu votre théorie de l'activité, finalement.
Alors, oui, c'est-à-dire que la traduction de ce passage-là m'a fait réfléchir et ça a été une découverte qui a eu des conséquences ensuite sur d'autres découvertes que j'ai faites par la suite, c'est vrai.
Bon, vous avez d'ailleurs récemment traduit Zhuangzi dans un ouvrage qui a paru en même temps qu'un autre sur Héraclite.
Parmi les textes...
Très rapidement.
Oui, vous savez qu'il y a une chose intéressante, c'est que mon ami Jean Levy a traduit Zhuangzi, et puis nous en avons souvent discuté, et nous n'avons pas du tout la même idée, ni de ce que c'est que le Zhuangzi, ni de la façon de le traduire. Et donc nous avons correspondu, j'ai fait un compte-rendu de sa traduction, qui est problématique à mes yeux, et il a eu l'élégance d'inclure dans les rééditions de sa traduction tout un dossier, c'est-à-dire les lettres que nous avions échangées sur l'art de traduire Zhuangzi, et puis le compte-rendu que j'avais fait de sa traduction, qui est amical, mais quand même très critique. Et je trouve ça très élégant de sa part. Et dans les rééditions de sa traduction, qui s'appelle « Les œuvres de Maître Zhuang », d'ailleurs c'est un titre que je réprouve personnellement, eh bien, figure toujours ce dossier. Et ça, je trouve absolument excellent.
Quel rapport, excusez-moi, avec le fait que vous avez récemment publié une traduction de certains passages du Zhuangzi, vous avez intitulé « Court traité du langage et des choses ».
Oui, c'est-à-dire que, d'abord, l'une des choses qui nous sépare, Jean Levy et moi, c'est que lui considère le Zhuangzi comme une unité qu'il faut absolument respecter en tant qu'unité. Il dit que c'est comme une cathédrale, ça se regarde dans son ensemble. Et moi, je suis partisan d'une autre vision de la chose. Je considère que le Zhuangzi est un classique, mais qu'il est fait de briques et de brocs, et qu'on n'est pas obligé de le considérer comme une unité, et qu'on gagne même à en étudier des parties comme des parties qui sont quelque chose de particulier. Et dans cette optique, qui a toujours été la mienne, eh bien, il y a un texte qui est d'une importance particulière, que j'avais déjà étudié anciennement et que j'ai repris à titre, séparément, et qui s'appelle « Le court traité du langage et des choses ».
Et que vous avez publié donc en même temps qu'un ouvrage qui s'appelle « Héraclite, le sujet », parce qu'il y a des ponts entre les deux auteurs.
C'est-à-dire que j'ai découvert, le hasard joue en ma faveur. Un jour, en librairie, je découvre un ouvrage sur Héraclite, je regarde, je trouve intéressant, je l'achète, je lis chez moi, et il me livre quelque chose de formidable. C'est que, si vous avez une minute pour que j'en parle, c'est que depuis, vous savez que de Héraclite, on a des fragments, on a des mots, et que les philologues, voilà de nouveau les philologues allemands, Diels et Kranz, ont rassemblé tout ce qu'on attribuait à Héraclite, dans les auteurs grecs, latins, les pères de l'Église, et on a rassemblé tout ça. Ils sont arrivés à 138 fragments, ils ont appelé ça comme ça. Et depuis qu'ils ont publié la liste des fragments, tout le monde reprend ces fragments dans l'ordre qu'ils avaient, eux, choisi. C'est un ordre alphabétique. Et l'auteur, ça va me revenir, Froment-Meurice, je crois, si je me souviens bien, a eu cette idée toute simple de dire, mais au fond, cet ordre, après tout, je suis pas obligé de prendre les fragments dans cet ordre-là. Et donc, il a essayé de les mettre dans un autre ordre, et il a fait apparaître quelque chose de très intéressant. Et moi, je me suis dit, mais j'étais pas convaincu. Et moi, je me suis dit, mais moi, je vais faire le même jeu. Je vais reprendre les cartes, je vais les mêler à ma façon, je vais sur ma table les mettre dans un autre ordre, et je ferai apparaître autre chose. Et ce qui est apparu, c'est au fond le même message que le texte de Zhuangzi, Le court traité, voilà. Alors ça a été une découverte formidable pour moi.
Vous avez rebattu les cartes, serait plus approprié.
Voilà, c'est le mot que je cherchais.
Nous voilà prêts, en tout cas, embarqués dans ce que je n'oserais pas appeler un système philosophique, car il n'a rien de systématique et qu'il se fonde avant tout sur nos expériences communes.
Oui.
Mais vous aurez l'occasion de vous en expliquer dans le 4e épisode. À demain, Jean-François Bilater.
À demain.
À voix nue, avec Jean-François Billetter, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposés par Thibaut Henton pour France Culture, à retrouver sur le site et sur l'application Radio France.